Témoins du chemin. Une émission réalisée par Domitil de Vevey.
L'expérience, l'aventure de ce pèlerinage est juste extraordinaire.
Parce qu'en fait, on n'est jamais autant libre que sur ce chemin. On est d'une liberté absolue.
On s'aperçoit vite que tout est beaucoup plus simple que dans notre vie de tous les jours.
Quand on revient de Saint-Jacques, on n'est pas indemne.
Souvent, les randonneurs partent marcheurs et arrivent pèlerins.
En tant que médecin, je dirais que ça serait vraiment une bonne chose à mettre sur certaines ordonnances. Pèlerinage à Saint-Jacques, matin, midi et soir, pendant 2 mois, c'est formidable, quoi.
Le 25 juillet est un jour particulier en cette année 2021. En effet, c'est un dimanche. Quand le jour de la Saint-Jacques, le 25 juillet donc, tombe un dimanche, l'année en devient jacquaire. Vous l'avez compris, c'est un jour spécial que nous célébrons dans ce 7e et dernier épisode de Témoins du chemin. À l'occasion de cette année sainte ou année jacquaire, votre radio chrétienne vous propose de mieux connaître le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Nous avons déjà vu, lors du premier épisode, pourquoi les années saintes ou jacquaires existent. Et avant d'aller au pied de la cathédrale, je vous propose d'entendre Aline Recoix, historienne spécialisée dans l'histoire du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, nous dire les particularités d'une année jubilaire pour la messe du 25 juillet et pour les pèlerins.
On ouvre une porte qui n'est ouverte que pour les années jubilaires. Il faut donc passer cette porte, se confesser dans les 15 jours avant ou 15 jours après, communier, prier pour les intentions du pape, que tous les péchés sont pardonnés. Pour le reste, tous les ans, le 25 juillet, quel que soit le jour, la messe pour Saint-Jacques, la messe de l'offrande, elle a un rite particulier puisque au cours de la messe, le roi d'Espagne ou le délégué, le roi ne vient que les années jubilaires, le délégué du roi fait une offrande à Saint-Jacques en lui faisant un discours auquel répond l'archevêque de Saint-Jacques et souvent c'est repris dans toute la presse parce qu'il s'agit d'un discours qui est à la fois social, politique et qui permet de voir quelles sont les relations entre l'État et l'Église dans le pays.
Le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle dure entre quelques jours pour certains et plusieurs mois pour d'autres. Les pèlerins, quand ils arrivent à Saint-Jacques de Compostelle, vont tous au même endroit, la cathédrale. Un but qui, quand il est atteint, provoque des réactions très variées, souvent de l'ordre de l'émotion forte. Adeline Recoix, qui passe une partie de l'année à Santiago, nous explique en quoi l'arrivée à la cathédrale relève d'une symbolique importante.
Alors je pense que l'une des raisons du succès, si on peut dire, de ce pèlerinage, c'est que, à l'arrivée, eh bien, celui qui vous attend, ce n'est pas l'archevêque, ce ne sont pas les chanoines de la cathédrale, ce n'est même pas un prêtre. Celui qui vous attend dans son église, c'est Saint-Jacques, cette grosse statue qui existe là depuis le XIIIe siècle, à laquelle on fait l'accolade. On arrive là, on a été rendre visite à Monseigneur Saint-Jacques, au baron Saint-Jacques, comme on disait à l'époque, et on lui raconte, en gros, ses peines, ses joies, le fait qu'on l'a trouvé.
Daniel Rago passe, lui aussi, une partie de l'année à Saint-Jacques de Compostelle, lorsqu'il travaille à l'accueil francophone des pèlerins, situé à l'étage du Centre d'accueil international des pèlerins, tout près de la cathédrale. L'accueil francophone est organisé par l'association Web Compostella et propose aux pèlerins francophones plusieurs services, dont une messe en français. Daniel Rago est le président de cette association. Il revient pour nous sur les rituels à l'arrivée et sur l'abrazo, cette accolade à la statue de Saint-Jacques.
C'est un geste qui n'a pas cessé depuis le Xe siècle. Elle a toujours existé, même si les statues ont changé. Ce que cela signifie, c'est, voilà, j'ai porté mon sac avec tout ce qu'il pouvait représenter. Je l'ai allégé au fur et à mesure. Je l'ai même rempli aussi au fur et à mesure de toutes mes expériences spirituelles et humaines. Beaucoup de choses se sont décantées en passant par la porte d'entrée, ben j'en ai encore décanté d'autres, mais il reste des choses qu'il me faudra toujours porter. Alors Saint-Jacques, je viens les déposer sur ton dos.
On peut aussi, si on le souhaite, participer à la messe. Daniel Rago.
La grande messe à la cathédrale, elle est frappante surtout par le fait qu'elle est dite en espagnol en général, mais toutes les personnes sont là en déposant leur poids de fatigue, en déposant leur épuisement, ça arrive assez souvent, en déposant leur joie d'être arrivé, leur étonnement souvent même d'être arrivé, et on s'étonne soi-même en se disant ça y est, je l'ai fait, j'y croyais pas avant de partir, je pensais pas que j'arriverais au bout. Et il y a une communion internationalité dans cette grande cathédrale.
Il existe aussi une tradition lors des messes en la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, le Botafumero.
Traduction littérale en français, la boîte à fumée, c'est-à-dire un immense encensoir en argent qui fait, je crois, 70 kilos, qui est, à la fin de la messe, balancé d'un bout à l'autre de la cathédrale. Il est célèbre dans le monde entier. Le pèlerinage de Saint-Jacques est connu pour cette arrivée avec le Botafumero, qui ne sort pas forcément à toutes les célébrations. Il sort lors des grandes fêtes.
Monseigneur Emmanuel Gobillard, évêque auxiliaire de Lyon et ancien recteur de la cathédrale du Puy-en-Velay, a fait la partie espagnole du chemin de Saint-Jacques quand il avait 18 ans. Et comme pour un certain nombre de pèlerins, sa première émotion à l'arrivée fut à quelques kilomètres de la cathédrale, sur une colline qui surplombe la ville de Saint-Jacques de Compostelle, le Monte do Gonzo, le mont de la joie.
Le premier souvenir, c'est le mont de la joie. Vraiment, c'est là où on aperçoit Compostelle, où on est vraiment sur la dernière partie. Je n'ai pas un souvenir très précis de paysage ou de choses comme ça. J'ai le souvenir d'un tas de cailloux. Le monde. Hein. J'ai souvenir aussi de cette dernière étape très émouvante où je ne voyais pas grand-chose parce qu'il y avait pas mal de poussière, il faisait très chaud et j'allais dire qu'arrivant devant Saint-Jacques, j'ai le souvenir de beaucoup de simplicité en fait. Je suis naturellement plutôt extraverti, mais je ne suis pas un exubérant. Donc quand j'arrive, j'ai surtout besoin de rencontrer le Seigneur. Je me souviens que je me suis mis dans un endroit isolé avant de rentrer dans la cathédrale et je me suis dit que j'allais prendre un temps d'oraison. Et puis je suis rentré paisiblement. Je me souviens du Botafumero, donc je ne sais pas si c'est que pour les années Jacquard, mais le Botafumero qui m'a marqué. Et puis j'ai fait comme tout le monde, parce que je trouve que le rite, enfin le fait d'avoir des actes rituels de façon un peu machinale, ça nous fait rentrer dans une humanité, ça nous permet d'avoir un bon rapport au corps. Donc j'ai mis ma main sur le pilier là, et puis je me souviens surtout que j'avais vraiment très mal partout. Donc j'étais content d'arriver.
C'est vrai que l'entrée à Compostelle,
Dominique Daniel,
l'arrivée sur la place, la visite de la cathédrale, la crypte avec le reliquaire de Saint-Jacques, la messe où tout le monde, entre autres, attend le fameux Botafumero, qui est un grand encensoir qui va être levé et balancé dans la cathédrale, sont des instants très très forts de partage, d'une communauté aussi qui se retrouve. Et puis les scènes de joie, de pleurs, d'allégresse. C'est un lieu aussi, je retrouvais des gens qui marchaient plus vite que moi. Certains qui étaient là depuis 2-3 jours, d'autres qui étaient à la Fistera, qui étaient déjà revenus. Donc c'est intense, c'est vraiment intense.
Et c'est un spectacle que de contempler les pèlerins arriver enfin au terme de leur voyage, comme nous le raconte Adeline Rucoy.
Sur la place, devant la place de l'Obradoiro, là c'est émouvant de voir, souvent ils se retrouvent là, ils s'embrassent parce qu'ils sont arrivés, ils s'allongent sur la place en regardant la façade de la cathédrale, ils l'ont enfin atteinte, ils sont au bout du chemin. Ils ont réussi, ils ont fait leur chemin. Et leur joie, quand ils arrivent, elle est vraiment émouvante.
Laurence Lacour est partie en 1998 pour la première fois sur le chemin de Compostelle en plein hiver. Sa réaction en arrivant fut de ressentir de la gratitude.
Moi, quand je suis arrivée, j'avais le sentiment de m'être dépassée, d'avoir vaincu ce qui m'avait jeté sur ce chemin. J'avais le sentiment d'avoir été aidée, énormément aidée par tous ceux qui m'avaient offert un café, une banane, un fruit, une soupe. Donc j'avais vraiment ce sentiment et honnêtement j'ai remercié Dieu d'abord de m'avoir protégée parce que quand même je me disais j'ai marché pendant 2 mois et demi par tous les temps, dans tous les reliefs et j'arrive intacte, jamais blessée, jamais en danger vraiment. Voilà, donc ça j'étais assez éblouie par ça et puis remercier la richesse de l'expérience et de la rencontre de l'autre. Pour moi c'est vraiment ce qui aura marqué de son sceau mon expérience, c'est la rencontre des autres. Ça, c'est même peu de gens, parce que j'en ai pas vu beaucoup, mais tous ceux que j'ai rencontrés m'ont vraiment apporté quelque chose. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux.
Quand on a cheminé 2 mois et demi sur le chemin et qu'on arrive au but...
Léonard Tando.
D'abord, on s'aperçoit que c'est pas le but réel. C'est un but géographique, c'est un but spirituel, c'est un sanctuaire de Saint-Jacques. Mais on sait qu'à partir de là, notre pèlerinage va continuer et il va continuer dans notre vie quotidienne. Ça va vraiment modifier bien des choses. Quand on revient de Saint-Jacques, on n'est pas indemne. Alors, il y en a qui changent radicalement de vie, il y en a d'autres qui changent leur façon de voir les choses, d'autres qui changent leur façon de travailler, qui changent leur relation aux autres, d'autres qui deviennent plus pratiquants, religieusement, etc. Le sentiment essentiel, pas forcément quand je suis arrivé avec mes co-pèlerins devant la cathédrale, mais on est resté une semaine à Saint-Jacques pour la semaine sainte, et nos familles nous ont rejoints là-bas. L'impression la plus forte, c'est d'être arrivé chez soi.
Le concernant, le chemin de Compostelle s'est poursuivi dans la vie de Léonard Tandeau d'une très belle façon. Un an après un pèlerinage en compagnie de sa femme et de son beau-frère, ils ont décidé ensemble de monter un lieu d'accueil chrétien sur la voie du Puy-en-Velay. Si Léonard Tandeau a ressenti cet appel de Dieu au plus profond de lui-même, c'est parce que le chemin de Compostelle apprend à écouter ce qui nous transcende. Anthony Grouard, président des Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique, analyse ce prolongement comme un nouveau point de départ.
L'arrivée sur la place de Le Roi d'Orio face à la cathédrale de Saint-Jacques, c'est toujours un moment rempli d'émotions, hein, de joie, d'émotions. On a envie, on n'a pas envie d'être là parce que la magie, c'est aussi le chemin. Mais l'arrivée, c'est le commencement aussi, l'arrivée. Parce que les pèlerins ont déjà pensé à un futur chemin. Et à mon avis, c'est que le commencement quand on arrive.
Attention cependant, le retour chez soi après le pèlerinage de Compostelle n'est pas chose simple. Léonard Tandeau.
C'est vrai qu'il y a un terme qui est employé par beaucoup de pèlerins, c'est le fait d'atterrir. Donc ça voudrait dire que pendant le chemin, ils se sont envolés, ce qui est une jolie image, et d'atterrir dans leur vie d'avant le pèlerinage, de revenir dans leur milieu habituel, dans leur milieu professionnel, etc. Pour beaucoup, c'est difficile, parce qu'il y a une telle différence de conception de vie. Quand on fait une semaine ou deux, le contraste n'est pas si fort, mais quand vous passez deux mois ou trois mois sur un chemin de ce type et que vous rentrez chez vous, tout n'a plus la même saveur.
Une difficulté qu'a ressentie Laurence Lacour dans ses deux expériences de pèlerinage à quasiment 20 ans d'écart.
C'est un grand choc. La première fois, je suis rentrée par le train, donc ça m'a pris deux jours pour revenir à Paris. Donc en deux jours, j'ai quand même eu le temps de d'effilocher un petit peu les choses, alors que avec mes enfants, nous sommes rentrés en avion. Donc ça a été assez violent et assez douloureux, parce qu'en fait, on n'est jamais autant libre que sur ce chemin. On est d'une liberté absolue. On n'a pas de courrier, on n'a pas de téléphone, enfin en tout cas la première expérience, on n'a pas de soucis d'aucune sorte, à part ses besoins vitaux et puis la rencontre avec les autres. Tout le reste existe sans doute toujours, mais on l'oublie ou on l'a laissé là où on habite ou dans sa maison.
Face à ce choc du retour, Léonard Tandeau nous raconte les réactions de certains.
Certains pèlerins choisissent, mais c'est une infime minorité, de revenir à pied pour éviter ce choc. Du retour. Souvent, ils l'entreprennent, ils le finissent pas, parce que c'est difficile de revenir à pied, de croiser tous les pèlerins qui vont à Saint-Jacques et de les croiser dans l'autre sens. Et à chaque fois, les pèlerins interpellent le revenant en lui disant « Mais non, mais Saint-Jacques, c'est pas par là, c'est de l'autre côté. Non, non, mais je reviens. » Certains font ça, ou certains aiment bien aussi de prévoir au retour une retraite spirituelle, notamment dans des monastères. On était allé voir une vingtaine de monastères pour leur expliquer les besoins des pèlerins sur le retour. Voilà, on leur avait fait une petite conférence, il y en avait qui étaient très au courant, d'autres moins. Voilà, et on avait établi une carte qui est encore disponible à l'accueil francophone à Saint-Jacques, à Compostelle, une petite carte des monastères où on peut aller faire une petite retraite de retour de Saint-Jacques et pouvoir se confier à un accompagnateur spirituel. Et je pense que c'est une bonne méthode pour atténuer un peu le choc du retour. Ceci dit, le choc est différent selon les personnes. Il y en a qui le ressentent et d'autres moins. Tout dépend un peu de la profondeur de la démarche et puis d'où ils sont partis en fait.
Les associations Jacquaire aident aussi à prolonger l'alchimie du chemin de Compostelle. Anthony Grouard.
Quand on a fait un long chemin, quelqu'un qui part de Nantes par exemple, qui va aller jusqu'à Saint-Jacques, il va donc marcher un peu plus de 1500 km. Et quand il va rentrer chez lui, dans son cercle familial ou dans son cercle professionnel, ils vont pas forcément comprendre ce qui vient de se passer chez ce pèlerin. Le pèlerin vient de passer deux mois à marcher au milieu des champs de la forêt et de rencontrer une foultitude de gens différents. Et il revient, il est dans son état d'esprit de pèlerin. Et pour l'entourage, c'est pas facile de cerner tout ça. Et donc, j'aurais tendance à dire aux pèlerins qui reviennent, après leur première expérience, retourner aux permanences, par exemple, de l'Association Bretonne des Amis de Saint-Jacques, parce que là, il y a beaucoup de pèlerins qui sont là pour aider les futurs et qui aussi vont être sensibles au récit de cette personne qui arrive. Et cette personne va pouvoir partager avec des gens qui ont déjà marché. Ouais.
Merci à Adeline Rucois, à Daniel Rago, à Monseigneur Emmanuel Gobillard, à Dominique Daniel, à Laurence Lacour, à Léonard Tando, à Anthony Grouard, ainsi qu'à Gaël Delabrosse et à Tomine Jossoum pour leur implication dans la réalisation de cette série spéciale d'émissions. Merci également à vous d'avoir écouté Témoins du chemin. Le générique a été réalisé par Alex Dirks, alias Dixie. Alors, pour conclure dignement cette émission, je vous dis buen camino.